Cet enregistrement est destiné à l'Institut national des jeunes aveugles. Italo Calvino, I-T-A-L-O, plus loin C-A-L-V-I-N-O, Marco Valdo ou les saisons en ville. Marco Valdo, M-A-R-C-O-V-A-L-D-O, en un seul mot. Traduit de l'italien par Roland Stragliati, S-T-R-A-G-L-I-A-T-I, édition Julliard, médium poche, l'école des loisirs, 1987. Italo Calvino, né en 1923, est un auteur italien bien connu en France pour de nombreuses œuvres, parmi lesquelles son fameux conte philosophique et fantastique, Le Baron Perché. Il a récemment publié Si par une nuit d'hiver un voyageur, où les récits s'entremêlent d'une étonnante manière. Le regard que Calvino pose sur les choses nous permet de reconsidérer le quotidien et de voir, dans la situation la plus anodine, un prétexte au rêve. Marco Valdo est manœuvre. Il vit, avec sa femme et ses 6 enfants, dans une grande ville d'Italie du Nord, un citadin parmi d'autres. Mais lui est différent. La publicité, le néon, la circulation, il ne les voit pas. Par contre, la moindre manifestation de la nature accroche son regard. Mais a-t-il certains sens atrophiés ou la nature s'est-elle changée en venant en ville ? Marco Valdo n'arrive pas à retrouver cette nature si saine, si pure dont il garde le souvenir. Elle est retorse cette nature, surtout en ville. Marco Valdo l'apprend en vivant une suite d'aventures inattendues et souvent drôles, évoquant un Charlot père de famille en butte aux complexités de notre vie post-industrielle. Page 5. Printemps. Chapitre 1er. Des champignons en ville. Venant de loin, le vent apporte à la ville des cadeaux insolites que remarquent seuls des êtres sensibles. Ainsi en est-il de ceux que le pollen de fleurs de contrées lointaines fait éternuer. Un jour, sur le bord de la plate-bande d'une avenue de la ville, tomba, on ne sait d'où, une volée de spores, S-P-O-R-E-S bien sûr, et des champignons y germèrent. Personne ne s'en aperçut, sauf le manœuvre Marco Valdo, qui, chaque matin, prenait justement le tramway à cet endroit-là. Il avait, ce Marco Valdo, un œil peu fait pour la vie citadine. Les panneaux publicitaires, les feux de signalisation, les enseignes lumineuses, les affiches, pour aussi étudier qu'ils fussent afin de retenir l'attention, n'arrêtaient jamais son regard qui semblait glisser comme sur les sables du désert. Par contre, qu'une feuille jaunit sur une branche, qu'une plume s'accrocha à une tuile, il les remarquait aussitôt. Il n'était pas de temps, T-A-O-N, sur le dos d'un cheval, de trous de verre dans une table, de pots de figues écrasés sur le trottoir, que Marco Valdo ne nota et n'en fit l'objet de ses réflexions, découvrant ainsi les changements de la saison, les désirs de son âme et les misères de son existence. Donc un matin, alors qu'il attendait le tram qui devait le mener à la SBAV, où il était homme de peine, il remarqua quelque chose d'anormal près de l'arrêt, dans la bande de terre stérile et encroûtée qui longeait les arbres de l'avenue. En certains points, au pied des 10 arbres, on aurait dit que des bosses gonflaient, qui éclataient ça et là en laissant affleurer d'étranges corps souterrains de forme arrondie. Il se baissa pour attacher ses chaussures et regarda mieux. C'était des champignons, de vrais champignons qui étaient en train de pousser au cœur de la ville. Marco Valdo eut le sentiment que le monde gris et misérable qui l'entourait regorgeait soudain de richesses cachées et qu'on pouvait encore attendre quelque chose de la vie, en plus du salaire horaire contractuel, des contingences, des allocations familiales et de l'indemnité de transport. À son travail, il fut encore plus distrait que d'habitude. Il pensait que pendant qu'il était là, à décharger des paquets et des caisses, les champignons, silencieux et lents, connue de lui seul, mûrissait leur chair poreuse dans l'obscurité de la terre, assimilait des sucs souterrains, faisait craquer la croûte des mottes de terre. Il suffirait d'une nuit de pluie, se disait-il, et il serait bon à cueillir. Il lui tardait de mettre sa femme et ses 6 enfants au courant de sa découverte. « Écoutez bien ce que je vais vous dire, » annonça-t-il durant le maigre déjeuner. « Cette semaine, on va manger des champignons, frits à l'huile, je vous le garantis. » Puis, au plus petit de ses enfants qui ne savait pas ce que c'était que des champignons, il expliqua avec ferveur la beauté de leurs nombreuses espèces, la délicatesse de leur saveur et comment il convenait de les cuisiner, parvenant même à intéresser à la discussion sa femme Domitilla, qui jusqu'alors avait plutôt semblé sceptique et distraite. « Et où y sont ces champignons ?» demandèrent les gosses. « Dis-nous que c'est qui pousse ?» À cette question, un réflexe de méfiance doucha l'enthousiasme de Marco Valdo. « Si je leur dis l'endroit, ils vont aller les chercher avec une bande de gamins, tout le quartier sera au courant et les champignons finiront dans les casseroles des autres. » Ainsi, cette découverte qui lui avait brusquement empli le cœur d'un amour universel lui donnait maintenant une terrible soif de possession, cependant qu'une crainte jalouse et soupçonneuse le submergeait. « Le coin des champignons, je le connais et je suis seul à le connaître, » dit-il au gosse. « Gare à vous si vous vendez la mèche !» Le lendemain matin, en se rendant à l'arrêt du tram, Marco Valdo était plein d'appréhension. Il se pencha vers la plate-bande et vit avec soulagement que les champignons avaient un peu poussé, mais pas trop, et qu'ils étaient encore presque entièrement enfouis sous terre. Marco Valdo était toujours penché quand il se rendit compte qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Il se releva d'un bond et s'efforça de prendre un air indifférent. Un balayeur était là, qui le regardait, appuyé sur son balai. Ce balayeur, dans la circonscription administrative duquel se trouvaient les champignons, était un jeune et grand échalas à lunettes qui se prénommait Amadis. Il y avait belle lurette que Marco Valdo le trouvait antipathique, peut-être bien à cause de son regard de myope qui scrutait l'asphalte des rues pour y chercher et y effacer à coups de balai les moindres traces de la nature. C'était un samedi, et Marco Valdo, dont l'après-midi était libre, le passa tout entier à tournailler d'un air distrait dans les parages de la plate-bande, surveillant de loin, du coin de l'œil, le balayeur et les champignons, tout en s'efforçant de calculer combien de temps il faudrait encore pour qu'on les puisse cueillir. La pluie tomba dans la nuit. Marco Valdo, comme ces paysans qui, après des mois de sécheresse, se réveillent et bondissent de joie au bruit des premières gouttes, Marco Valdo, seul de toute la ville, s'assit dans son lit. Il appela les siens. « Il pleut, il pleut !» et respira, venue du dehors, une odeur de poussière mouillée et de moisissure fraîche. À l'aube, c'était dimanche, avec les gosses et un panier qu'on lui avait prêté, il fonça immédiatement vers la plate-bande. Les champignons étaient bien là, droits sur leurs pieds, leur tête dominant la terre encore imbibée d'eau. « Hurrah !» Et ils se précipitèrent pour les ramasser. « Papa, regarde le monsieur là, tout ce qu'il a déjà pris !» s'écria Michelino. Alors, le père, levant la tête, vit Amadis, debout près d'eux, tenant également sous le bras un panier plein de champignons. « Ah, vous les ramassez aussi ?» dit le balayeur. « Ils sont bons à manger alors ? Moi j'en ai ramassé un peu, mais je savais pas si on pouvait s'y fier. Un peu plus loin dans l'avenue, il y en a qui sont encore plus gros. Bon, bah maintenant que je sais, je vais affranchir mes parents qui sont là-bas à se demander s'il faut les ramasser ou non. » Il s'éloigna à grandes enjambées. Marco Valdo demeura bouche bée. Des champignons encore plus gros et qu'il n'avait même pas remarqué, une récolte inespérée qu'on lui soufflait comme ça sous le nez. Il demeura un moment immobile, comme pétrifié de colère, de rage. Puis, ainsi que cela se produit souvent, ses passions individuelles et mesquines s'effondrèrent et firent place à un grand élan de générosité. À cette heure-là, beaucoup de gens attendaient le tram, le parapluie accroché au bras, car le temps demeurait humide et incertain. Hé, vous autres, vous aimeriez pas manger un bon plat de champignons ce soir ? Cria Marco Valdo à ceux qui se pressaient à l'arrêt du tram. Il y en a qu'on poussait dans l'avenue, suivez-moi, il y en aura pour tout le monde. Et il s'élança sur les traces d'Amadis, suivi par une petite troupe d'hommes et de femmes. Ils trouvèrent encore assez de champignons pour tous, et à défaut de paniers, les mirent dans leurs parapluies grands ouverts. Quelqu'un dit « Ce qui serait chouette, ce serait de faire un bon repas tous ensemble !» Au lieu de cela, chacun prit ses champignons et rentra chez soi. Mais ils se revirent très vite, le soir même, dans la même salle d'hôpital, après le lavage d'estomac qui les avait tous sauvés de l'empoisonnement. Rien de grave, car la quantité de champignons mangés par les uns et les autres n'était pas très importante. Dans deux lits voisins, Marco Valdo et Amadis se regardaient de travers. Été. Chapitre 2. Vacances sur un banc. En se rendant chaque matin à son travail, Marco Valdo passait sous le dôme de verdure d'une place plantée d'arbres, un carré de jardin public découpé au beau milieu de quatre rues. Il levait les yeux vers le feuillage des marronniers d'Inde, vers le point où il était le plus touffu et d'où ne dardaient seulement, dans l'ombre diaphane de la lymphe, que de rares et jaunes rayons de soleil. Il écoutait le vacarme des moineaux, invisibles dans les branches. Il pensait cependant que c'était des rossignols. « Oh !» se disait-il, « si je pouvais au moins une fois me réveiller au gazouillis des oiseaux, plutôt qu'à la sonnerie du réveil, au cri de Paolino, le dernier-né, et au hurlement de Domitila à ma femme. Ou bien encore, « oh, si je pouvais dormir ici, tout seul, au milieu de cette fraîcheur verte, et pas dans ma chambre basse, étouffante, ici dans le silence, et pas parmi les ronflements de toute ma famille qui bavarde dans son sommeil, avec en plus le bruit du tram dans la rue. Oui, dormir ici, dans l'obscurité naturelle de la nuit, et pas dans celle artificielle des volets clos, zébrés par les reflets des réverbères. Oh, si je pouvais voir les feuilles et le ciel en ouvrant les yeux !» Et c'est en ressassant chaque jour de telles pensées que Marco Valdo commençait ses 8 heures quotidiennes, plus les supplémentaires, de manœuvres non qualifiées. Il y avait dans un coin de la place, sous la voûte de feuillage des marronniers d'Inde, un banc écarté et à demi caché. Marco Valdo se l'était moralement réservé. Et durant les nuits d'été, quand, dans la chambre où il dormait à 5, il ne parvenait pas à trouver le sommeil, il rêvait au banc comme un sans-logis peut rêver au lit d'apparat d'un palais royal. Une nuit, tandis que sa femme ronflait et que les enfants gigotaient en dormant, Marco Valdo se leva en douce, s'habilla, prit son oreiller sous le bras, sortit et gagna la place. Là était la fraîcheur et la paix. D'avance, en s'en réjouissant, il imaginait le contact de ces planches d'un bois, il en était sûr, moelleux, accueillant, et à tout point de vue préférable au matelas avachi de son lit. Il aurait d'abord contemplé les étoiles durant une minute, puis sombré dans un sommeil réparateur, propre à effacer d'un coup toutes les avanies de la journée. La fraîcheur et la paix étaient bien au rendez-vous, mais non le banc, qui n'était pas libre. Deux amoureux y étaient assis, qui se regardaient dans les yeux. Discret, Marco Valdo s'éloigna. « Il est tard, se dit-il. Ils passeront pas la nuit à la belle étoile. Ils finiront bien de roucouler. » Mais le couple ne roucoulait pas. Ils se disputaient. Et lorsqu'il s'agit de deux amoureux, on ne peut jamais dire quand la discussion finira. Le garçon disait, « Pourquoi veux-tu pas admettre qu'en disant ce que t'as dit, tu me faisais de la peine et pas du tout plaisir comme tu faisais semblant de le croire ? Marco Valdo comprit qu'il y en avait encore pour un bout de temps. « Non, je l'admets pas, » dit la jeune fille. Marco Valdo s'y attendait. « Pourquoi veux-tu pas l'admettre ?»« Non, je l'admettrai jamais. » « Aïe !» se dit Marco Valdo. Et son oreiller sous le bras, il alla faire un petit tour. Il alla regarder la pleine lune par-dessus les arbres et les toits. Puis il revint vers le banc, sans trop s'en approcher pour ne pas déranger les amoureux, mais en espérant tout de même les gêner assez pour qu'ils s'en aillent. Mais ils étaient trop bien occupés à discuter pour remarquer sa présence. « Alors tu l'admets ?»« Non, non, je l'admets pas du tout. » « Mais en admettant que tu l'admettes, en admettant que je l'admette, j'admettrai jamais ce que tu veux me faire admettre. » Marco Valdo retourna voir la lune, puis alla regarder un feu de signalisation qui se trouvait un peu plus loin. Jaune, 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 c'était toujours le jaune qui s'allumait et se réallumait. Marco Valdo compara la lune et le feu de signalisation. La lune et sa pâleur mystérieuse, également jaune, mais au fond verte et même bleu clair. La lune et le feu de signalisation avec son jaune plutôt vulgaire. La lune, on ne peut plus calme, irradiant doucement sa lumière et veinée de temps en temps d'infimes restes de nuages qu'elle laissait tomber derrière elle d'un air souverain. La lune et le feu de signalisation toujours là, lui, allumé, éteint, haletant, fébrile, faussement affairé, esclave et harassé. Marco Valdo fit demi-tour. Peut-être la jeune fille avait-elle fini par admettre. Mais non, bien au contraire, ce n'était plus elle qui n'admettait pas, mais lui. La situation avait changé du tout au tout, et maintenant c'était elle qui lui disait « Alors tu admets ?» Non, il n'admettait pas. Une demi-heure s'écoula de la sorte, au bout de laquelle il finit par admettre, à moins que ce ne fût elle. Bref, Marco Valdo les vit se lever et s'éloigner en se tenant par la main. Il courut vers le banc, se jeta dessus, mais cependant, à cause de son attente, il n'était plus dans la disposition d'esprit de goûter pleinement la douceur qu'il en escomptait, au point que même son lit ne lui avait jamais semblé aussi dur. Cela pourtant n'importait guère. Marco Valdo était bien décidé à passer une bonne nuit à la belle étoile. Il enfouit son visage dans l'oreiller et chercha le sommeil, un sommeil tel qu'il en avait depuis longtemps perdu l'habitude. Maintenant, il avait trouvé la position la meilleure. Pour rien au monde, il ne se serait déplacé d'un millimètre. Dommage seulement qu'étendu comme il l'était, son regard ne tomba point uniquement sur une perspective d'arbres et de ciel, de façon que le sommeil lui ferma les yeux sur une vision de sérénité absolue qui ne devait rien qu'à la nature. Oui, dommage que devant lui se succédassent en raccourci un arbre, l'épée d'un général brandie du haut de son monument, un autre arbre, un panneau couvert d'affiches, un troisième arbre, et puis un peu plus loin, le feu de signalisation, cette fausse lune, qui continuait à égrener son jaune, jaune, jaune. Il faut dire que ces derniers temps, Marco Valdo avait les nerfs en si mauvais état que bien qu'il fût mort de fatigue, il suffisait d'un rien ou qu'il se mit en tête quelque chose qui l'ennuyait pour l'empêcher de dormir. Maintenant, c'était ce feu de signalisation qui l'ennuyait, ce feu qui s'allumait et s'éteignait. Il le voyait de là-bas, au loin, tel un œil jaune qui clignait, solitaire. Pas de quoi en faire un drame. Mais Marco devait vraiment être au bord de la dépression. Il fixait ses feux alternés et se répétait. « Comme je dormirais bien s'il n'y avait pas cette affaire-là. Comme je dormirais bien. » Il fermait les yeux et il lui semblait voir sous ses paupières ce jaune imbécile s'allumer et s'éteindre. Il clignait des yeux et voyait alors des dizaines de feux de signalisation. Il les rouvrait et tout recommençait toujours. Il se leva. Il lui fallait mettre un écran entre le feu de signalisation et lui. Il alla jusqu'au monument du général et jeta un coup d'œil alentour. Au pied du monument, il y avait une couronne de laurier montée sur baguette, bien fournie mais déjà flétrie et à demi défeuillée, avec un grand ruban décoloré. Le 15e lancier en un anniversaire de gloire. Marco Valdo grimpa sur le piédestal, leva la couronne, l'enfila sur le sabre du général. Le vigile Tornaquinci, T-O-R-N-A-Q-I-N-C-I, qui faisait sa ronde, traversait la place en vélo. Marco Valdo se cacha derrière la statue. Tornaquinci avait vu l'ombre du monument bouger sur le sol. Il s'arrêta, soupçonneux, puis, ayant considéré la couronne enfilée sur le sabre, il comprit qu'il y avait là quelque chose qui n'allait pas, mais il ne savait trop quoi. Il dirigea vers la couronne le rayon de sa torche électrique à réflecteur et lut « Le 15e lancier en un anniversaire de gloire ». Il hocha la tête en signe d'approbation et s'en alla. Pour lui donner le temps de s'éloigner, Marco Valdo fit le tour de la place. Dans une rue adjacente, une équipe d'ouvriers ajustait un aiguillage aux rails du tramway. La nuit, dans les rues désertes, ces petits groupes d'hommes, accroupis dans la lueur des soudeuses autogènes, avec ces voix qui résonnent et s'éteignent aussitôt, ont l'air secret de gens qui préparent des choses que ceux du jour devront ignorer à jamais. Marco Valdo s'approcha, resta là à regarder la flamme et les gestes des ouvriers, avec une attention quelque peu embarrassée et des yeux que l'envie de dormir rétrécissait de plus en plus. Il chercha une cigarette dans sa poche pour se tenir éveillé, mais il n'avait pas d'allumette. « Vous avez du feu ?» demanda-t-il aux ouvriers. « Tiens !» lui dit le type du chalumeau oxyacétylénique en lui envoyant une volée d'étincelles. Un autre ouvrier se leva et lui tendit une cigarette allumée. « Toi aussi, tu fais la nuit ?»« Non, je fais le jour, » dit Marco Valdo. « Qu'est-ce que tu fous debout à cette heure-ci, alors ? Nous, on va pas tarder à se tirer. » Marco Valdo regagna le banc, s'allongea. À présent, il ne voyait plus le feu de signalisation. Il pouvait s'endormir. Enfin ! Il n'avait pas prêté attention au bruit d'abord. Maintenant, ce ronflement, pareil à un souffle sourd aspirant, et dans le même temps à un raclement interminable et même à un grésillement, ne cessait de lui emplir les oreilles. Il n'est pas de bruit plus perçant que celui d'une soudeuse, une espèce de hurlement assourdi. Marco Valdo, immobile, recroquevillé sur le banc comme il l'était, le visage enfoui dans son oreiller fripé, n'arrivait pas à trouver le repos. Le bruit continuait à évoquer pour lui la scène éclairée par la flamme grise qui crachait des étincelles d'or. Les hommes accroupis sur le sol, un verre fumé devant les yeux. Le pistolet du soudeur serré dans une main, agité d'un tremblement saccadé. La zone d'ombre dans quoi baignait le chariot aux outils, avec son haut échafaudage métallique atteignant presque les fils électriques. Marco Valdo ouvrit les yeux, se retourna sur le banc, regarda les étoiles à travers les branches. Les oiseaux, insensibles, continuaient à dormir là-haut parmi les feuilles. Ah, s'endormir comme un oiseau, avoir une aile sous quoi glisser sa tête, un monde de branchages suspendus au-dessus du monde terrestre, qu'on devine à peine là-bas, estompé, lointain. Il suffit de commencer par refuser son propre état, et qui sait où l'on arrive ? Présentement, pour dormir, Marco Valdo avait besoin de quelque chose dont il ne savait pas très bien ce que c'était. Même un vrai silence ne lui aurait plus suffi, mais bien un bruit de fond plus doux que le silence. Un souffle de vent qui passe dans l'épaisseur d'un sous-bois ou le murmure d'une eau qui s'ouvre et s'en va se perdre à travers champs. Il avait une idée en tête et se leva. Non, pas exactement une idée. Car, à demi abruti de sommeil, il ne parvenait pas à formuler nettement ses pensées. C'était plutôt comme le souvenir qu'il y avait là, tout près, quelque chose d'associé à l'idée de l'eau, à son écoulement gazouillant et assourdi. En fait, il y avait une fontaine toute proche, œuvre insigne où se mariaient superbement la sculpture et l'hydraulique, avec des nymphes, des faunes, des divinités fluviales qui faisaient s'entrecroiser cascades et jets d'eau. Seulement, elle était à sec. L'été, étant donné que l'eau se faisait parfois rare, on fermait la fontaine durant la nuit. Marco Valdo tournait machinalement autour comme un somnambule. Plus par instinct que par réflexion, il savait qu'un bassin doit comporter un robinet. Quand on a l'œil, on trouve ce que l'on cherche, même les yeux fermés. Il ouvrit le robinet. De hauts jets d'eau jaillirent des coquilles, des barbes et des naseaux des chevaux. Les grottes artificielles se voilèrent de manteaux scintillants. Et dans la grande place vide, toute cette eau résonna comme l'orgue d'une église, de tous les bruissements et de tous les grondements dont elle était capable. Vigile Tornaquinci, qui tout vêtu de noir repassait à bicyclette pour glisser de petits papiers sous les portes, manqua tomber de sa machine en voyant tout à trac exploser la fontaine devant lui, tel un feu d'artifice liquide. Marco Valdo, tout en s'efforçant d'ouvrir ses yeux le moins possible, pour ne pas laisser échapper ce mince fil de sommeil qu'il lui semblait avoir déjà saisi, Marco Valdo courut s'étendre de nouveau sur le banc. À présent, il était comme au bord d'un torrent, avec un bois au-dessus de lui. À présent, il dormait. Il rêva d'un repas. Son assiette était couverte, comme pour garder les pâtes au chaud. Il la découvrit, il y avait dedans un rat mort qui puait. Il regarda dans l'assiette de sa femme une autre saloperie de rat, devant ses enfants d'autres rats, plus petits mais également à moitié putréfiés. Il ôta le couvercle de la soupière et y vit un chat ventre en l'air. La puanteur le réveilla. Une benne de nettoiement de celles qui vont vider de nuit les boîtes à ordures stationnait non loin de là. Marco Valdo distinguait, dans la lueur des réverbères, la grue qui grinçait par à coup, les ombres des éboueurs, debout au sommet de la montagne d'immondices, et qui guidait de la main le godet métallique accroché à la poulie, le renversait dans le camion, aplatissait à coups de pelle, avec des voix sourdes et cassées, comme les secousses de la grue. « L'aide ! Lâche ! Va te faire foutre ! » et des chocs métalliques pareils à des coups de gong étouffés. Puis le moteur redémarrait au ralenti, la benne allait s'arrêter un peu plus loin et la manœuvre recommençait. Mais le sommeil de Marco Valdo était désormais dans une zone où les bruits ne l'atteignaient plus. Au reste, quoique désagréables et raclants, ils étaient comme entourés d'un halo moelleux qui les amortissait. Peut-être bien à cause de la consistance même des ordures entassées dans la benne. Non, c'était la puanteur qui le tenait éveillé, la puanteur avivée par une intonérable idée de puanteur, de sorte que même les bruits, ces bruits amortis et lointains, et l'image en contre-jour de la benne avec la grue, ne se présentaient plus à l'esprit en tant que bruit et vision, mais seulement en tant que puanteur. Et Marco Valdo s'agitait, poursuivant en vain, et par la seule imagination de ses narines, la fragrance d'une roseraie. Le vigile Tornaquinci sentit son front se couvrir brusquement de sueur en voyant une ombre humaine courir à quatre pattes sur une plate-bande, arracher rageusement des renoncules et disparaître. Mais il se dit qu'il devait s'agir soit d'un chien, auquel cas cela relevait de la compétence des employés de la fourrière, soit d'une hallucination, ce qui relevait alors de la compétence d'un médecin aliéniste, soit encore d'un lycanthrope, un loup-garou, lequel relevait de la compétence d'on ne savait trop qui, mais surtout pas de la sienne, et il fila. Dans le même temps, Marco Valdo, ayant regagné son banc, pressait contre son nez son fruste bouquet de renoncules, tentant d'obstruer son conduit olfactif avec leur parfum. Il ne pouvait pas tirer grand-chose de ces fleurs quasiment inodores, mais déjà la bonne odeur de rosée, de terre et d'herbe écrasée lui était d'un grand secours. Elle chassa l'obsession des ordures et Marco Valdo s'endormit. L'aube pointait. La brusque ouverture d'un ciel plein de soleil au-dessus de sa tête l'éveilla. Un soleil qui avait comme effacé les feuilles et les redessinait peu à peu pour des yeux à demi aveugles. Même Marco Valdo ne pouvait s'attarder, car un frisson l'avait fait sauter à bas de sa couche. le jeu d'un de ces tuyaux en caoutchouc qui servent aux jardiniers de la ville pour arroser plates-bandes et gazons faisait serpenter des rigoles d'eau froide sur ses vêtements. Et tout autour de lui piaffaient les trams, les camions des marchés, les voitures à bras, les fourgonnettes. Les ouvriers fonçaient vers les usines sur leurs vélomoteurs. Les rideaux de fer des boutiques remontaient à toute vitesse. Les fenêtres des maisons ouvriaient leurs persiennes. Les vitres étincelaient. La bouche pâteuse, les yeux ensommeillés, l'air hagard, le dos douloureux, une hanche à demi démise, Marco Valdo courait à son travail. Automne. Chapitre 3. Le pigeon municipal. Les itinéraires que suivent les oiseaux quand ils émigrent, vers le sud ou vers le nord, en automne ou au printemps, traversent rarement la ville. Leur vol coupe très haut le ciel, au-dessus de l'étendue striée des champs et le long de la lisière des bois, puis ils semblent suivre la courbe sinueuse d'un fleuve, ou bien le creux d'une vallée, ou bien encore les routes invisibles du vent. Mais ils virent au large dès que les chaînes de toit d'une ville surgissent devant eux. Pourtant, une fois, un vol de bécasses d'automne apparut dans le ruban de ciel d'une rue. Et Marco Valdo, qui ne circulait toujours que le nez en l'air, fut bien le seul à s'en apercevoir. Il était à ce moment sur un triporteur, et en voyant les oiseaux, il se mit à pédaler plus fort, comme s'il se lançait à leur poursuite, pris soudain d'une envie de chasser, bien qu'il n'eût jamais épaulé d'autre fusil que celui du soldat. En pédalant ainsi, sans perdre des yeux le vol des bécasses, il se trouva parmi les voitures au beau milieu d'un carrefour, le feu étant au rouge, et manqua de peu d'être embouti. Tandis qu'un agent, visage cramoisi, inscrivait ses noms et adresses sur son calepin, Marco Valdo chercha encore du regard toutes ses ailes dans le ciel, mais elles avaient disparu. À son travail à la SBAV, sa contravention lui fut aigrement reprochée. « Alors, tu sais même pas ce que veut dire un feu rouge ?» lui lança M. Villigelmo, le chef magasinier. « Mais qu'est-ce que tu regardais donc, tête de linotte ?»«
Un vol de bécasse que je regardais, » dit Marco Valdo.
« Quoi ?»
Les yeux de M. Villigelmo, qui était un vieux chasseur, se mirent à briller. Marco Valdo raconta tout.
« Samedi, je prends mon fusil et mon chien, » dit le chef magasinier tout guilleret, oubliant ses reproches. Leur passage a déjà commencé là-haut, sur la colline. C'étaient sûrement des bécasses effrayées par les chasseurs de là-haut et qui se sont repliées sur la ville.
Durant toute la journée, la cervelle de Marco Valdo tourna comme un moulin. Si samedi, comme c'est probable, la colline est pleine de chasseurs, qui sait combien de bécasses descendront en ville? Et si je sais y faire, dimanche, je mangerai de la bécasse rôtie. Le grand immeuble où habitait Marco Valdo avait un toit terrasse avec des fils de fer pour étendre le linge. Marco Valdo y monta avec trois de ses gosses un bidon de glu, un pinceau et un sac de maïs. Cependant que les gosses répandaient un peu partout les grains de maïs, Marco Valdo, pinceau en main, enduisait de glu les parapets, les fils de fer, les corniches du toit. Il en mit tellement que Filippetto, en jouant, manqua de peu d'y demeurer collé. Cette nuit-là, Marco Valdo rêva d'un toit jonché de bécasses engluées et frémissantes. Domitilla, sa femme, plus gourmande et paresseuse que lui, rêva de canards tout rôtis posés sur les corniches. Sa fille, Isolina, rêvait romantiquement à des colibris dont elle aurait orné son chapeau. Michelino rêva qu'il y trouvait une cigogne. Le lendemain, d'heure en heure, l'un des gosses allait jeter un coup d'œil sur le toit. Il mettait seulement le nez à la lucarne, afin que dans le cas où elle s'apprêterait à se poser, elle ne prise pas peur. Puis il redescendait donner des nouvelles. Les nouvelles n'étaient jamais bonnes. Jusqu'à ce que vers midi, Pietruccio revienne en criant « Papa, elles sont là! Viens vite !» Marco Valdo monta avec un sac. « collé à la glu, il y avait là un pauvre pigeon, un de ces pigeons gris, citadins, habitués à la foule et au vacarme des places. Voltant tout autour de lui, d'autres pigeons le contemplaient tristement, cependant qu'il cherchait à détacher ses ailes de la bouillie visqueuse sur laquelle il s'était malencontreusement posé. Marco Valdo et sa famille étaient occupés à dépiauter les petits os de ce pigeon fibreux et maigre qu'on avait fait rôtir quand ils entendirent frapper à la porte. C'était la bonne de la propriétaire de l'immeuble. « Madame vous demande, venez tout de suite !» Fort inquiet, car il avait 6 mois de retard pour son loyer et craignait d'être expulsé, Marco Valdo gagna l'appartement de la propriétaire à l'entresol. À peine entré dans le petit salon, il vit qu'il s'y trouvait déjà un visiteur, l'agent au visage cramoisi. « Approchez, Marco Valdo, dit la propriétaire. On m'apprend qu'il y a quelqu'un sur notre terrasse qui donne la chasse aux pigeons de la municipalité. Êtes-vous au courant ?» Marco Valdo en eut froid dans le dos. « Madame, madame !» cria à ce moment une voix de femme. « Qu'y a-t-il, Gwendolina ?» La laveuse entra. « Je suis allée étendre le linge sur la terrasse et il m'est resté tout collé sur les fils de fer. J'ai tiré dessus pour le détacher, mais il se déchire. Tout est abîmé. Comment que ça se fait ?» Marco Valdo se passait une main sur l'estomac comme s'il n'arrivait pas à digérer. Hiver. Chapitre 4. La ville sous la neige. Ce matin-là, ce fut le silence qui le réveilla. Marco Valdo se dressa dans son lit avec le sentiment qu'il y avait dans l'air quelque chose d'étrange. Il ne comprenait pas quelle heure il pouvait bien être. La lumière qui filtrait au travers des persiennes était différente de celle de toutes les heures du jour et de la nuit. Il ouvrit la fenêtre. La ville n'était plus là. Elle avait été remplacée par une grande page blanche. Aiguisant son regard, il distingua dans tout ce blanc quelques lignes presque effacées qui correspondaient à celles de la vue habituelle. Les fenêtres et les toits et les réverbères d'alentour, mais ensevelis sous toute cette neige qui leur était tombée dessus pendant la nuit. « La neige !» cria Marco Valdo à sa femme, ou plutôt voulut le crier, mais sa voix sortit étouffée de sa gorge. Comme sur les lignes et les couleurs et les perspectives, la neige était aussi tombée sur les bruits et même sur la possibilité de faire du bruit. Dans cet espace capitonné, les sons ne vibraient plus. Il se rendit à pied à son travail, la neige empêchant les trams de circuler. Dans la rue, s'ouvrant lui-même un passage, il se sentit libre comme il ne l'avait jamais été. Il n'y avait plus de différence entre le trottoir et la chaussée. Les véhicules ne pouvaient pas passer. Et Marco Valdo, même s'il s'enfonçait jusqu'à mi-jambe à chaque pas et s'il sentait la neige s'infiltrer dans ses chaussettes, Marco Valdo était maître de marcher au milieu de la rue, de piétiner les plates-bandes, de traverser hors des clous, d'avancer en zigzagant. Les rues et les boulevards s'ouvraient, interminables et déserts, tels de blanches gorges de montagne. Qui sait si la ville ensevelie sous ce manteau était toujours la même ou si on l'avait changée contre une autre durant la nuit? Qui sait s'il y avait encore sous ces monticules de neige les postes d'essence, les kiosques à journaux, les arrêts des trams ou s'il n'y avait rien que des sacs et des sacs de neige? Tout en marchant, Marco Valdo rêvait qu'il se perdait dans une autre ville, alors qu'au contraire, ses pas le ramenaient exactement à son lieu de travail quotidien, à la SBAV, au magasin habituel où le manœuvre s'étonna, dès qu'il en eut franchi le seuil, de se retrouver entre des murs toujours semblables, comme si le changement qui avait annulé le monde extérieur avait uniquement épargné la SBAV. Là l'attendait une pelle, plus grande que lui. Monsieur Villigelmo, le chef magasinier, lui dit en la lui tendant. C'est nous qui devons nettoyer le trottoir devant le magasin. Nous, ou plutôt toi. Déblayer de la neige n'est pas un jeu d'enfant, surtout quand on a l'estomac presque vide. Mais pour Marco Valdo, la neige était comme une amie, comme un élément qui annulait les murs, qui emprisonnait sa vie. Et il attaqua son travail avec ardeur, faisant voler de grandes pelletées de neige du trottoir au beau milieu de la chaussée. Même Sigismondo, le chômeur, était plein de reconnaissance pour la neige, car s'étant fait engager le matin même dans l'équipe des balayeurs municipaux, il pouvait finalement compter sur quelques jours de travail assuré. Mais ce sentiment-là, plutôt qu'à de vagues rêveries comme Marco Valdo, le portait à calculer avec beaucoup de précision combien de mètres cubes de neige il faudrait déplacer pour déblayer tant ou tant de mètres carrés. Il visait en somme à faire bonne impression sur le chef d'équipe et, c'était là son ambition secrète, à faire carrière. Sigismondo se retourna et que vit-il ? Un tronçon de la chaussée tout juste déblayée se recouvrait de neige sous les coups de pelle désordonnés d'un type qui s'affairait sur le trottoir. Il en eut presque un coup de sang. Il se précipita vers lui, lui appuyant sa pelle débordante de neige sur la poitrine. « Hé, toi ! C'est toi qui balances toute cette neige ?»«
Quoi ? Quoi ?» dit Marco Valdo en sursautant, mais en le reconnaissant tout de même.
« Ah, peut-être bien que oui.
Bon. » Ou tu la reprends tout de suite avec ta pelle, ou je te la fais manger jusqu'au dernier flocon.
Mais je dois déblayer le trottoir.
Aie-moi la rue, alors.
Où que je la mets?
Tu travailles pour la mairie?
Non, pour la SBAV.
Sigismondo lui apprit à entasser la neige sur le bord de la chaussée, et Marco Valdo lui renettoya tout son tronçon. Satisfaits l'un de l'autre, leurs deux pelles plantées dans la neige, ils contemplèrent le travail accompli.
T'aurais pas une petite pipe ? Demanda Sigismondo.
Ils étaient occupés à allumer chacun une demi-cigarette quand une balayeuse chasse-neige parcourut la rue en soulevant deux gerbes blanches qui retombaient sur ses côtés. Tout bruit ce matin-là n'était seulement qu'un bruissement. Quand les deux hommes levèrent les yeux, tout le tronçon qu'ils avaient déblayé était de nouveau recouvert de neige.
Qu'est-ce qui se passe? Il s'est remis à neiger?
Le chasse-neige, roulant sur ses balais mécaniques, disparaissait déjà au premier tournant. Marco Valdo apprit à entasser la neige pour en faire de petits murs compacts. S'il continuait comme ça, à en faire de petits murs, il pouvait construire des rues pour lui tout seul, des rues qu'il aurait conduit en des endroits qu'il était seul à connaître, des rues dans lesquelles tous les autres se seraient perdus. Refaire la ville, faire des tas de neige haut comme des maisons, que personne n'aurait pu distinguer des vraies maisons. Ou peut-être, toutes les maisons étant désormais devenues de neige, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, refaire toute une ville de neige. Monuments, clochers et arbres compris. Une ville qu'on pouvait défaire à coups de pelle et rebâtir d'une autre façon.
Fin de la première piste de la première cassette, page 30, Marco Valdo ou les saisons en ville, par Italo Calvino. Ce chapitre n'est pas fini. La fin est sur l'autre piste, la deuxième piste de cette première cassette.